Bonjour à tous. Alors nous continuons notre périple dans l'Exode et aujourd'hui nous avons trois chapitres devant nous. Dès le premier chapitre de ce livre, nous avons vu le problème de ce peuple. Il est l'esclave du Pharaon en Égypte et il crie. Il crie vers Dieu, et Dieu intervient. Et nous connaissons tous ces 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, et ce peuple qui est sauvé après 400 ans d'esclavage. Le peuple est sauvé de quelque chose. Sa demande d'être libéré de ce maître cruel est enfin atteinte. Il est conduit par Dieu dans le désert, et au chapitre 19, il est arrivé au pied du mont Sinaï et là une alliance est scellée avec Dieu. Le peuple ne bougera plus de là. Jusqu'au tout dernier chapitre de l'Exode, le peuple ne bouge plus. Au milieu de l'Exode, nous sommes arrivés au mont Sinaï et à la fin de l'Exode, nous serons toujours au mont Sinaï parce que c'est là qu'est le véritable but de l'Exode. Si le peuple a été sauvé de quelque chose, il est sauvé pour quelque chose. Il est sauvé pour rencontrer Dieu et le servir. C'est ce que Moïse a dit à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour qu'il rende un culte à Dieu dans le désert. Dieu va venir. Dieu va venir à la rencontre de son peuple. Dieu va venir habiter au milieu d'eux. Et c'est ce que l'on découvre dans toute cette dernière section de l'Exode qui commence là au chapitre 25 et qui finit au chapitre 40 de l'Exode. Alors je voudrais juste brosser un tableau très rapide de cette grande section. Si nous prenons les chapitres 25 à 31, nous voyons les instructions de Dieu pour la construction de l'habitation ou du tabernacle de Dieu. Il y a un refrain qui revient tout au long de ces chapitres. Tu feras, tu feras, tu feras, tu feras, tu feras comme je te l'ai montré sur la montagne. Mais en bas, dans les chapitres 32 à 34, l'alliance est brisée. Alors que Dieu est en train de révéler les plans qui lui permettront d'habiter parmi son peuple, il s'impatiente et ils veulent un Dieu qu'ils peuvent voir. Ils le veulent tout de suite. Ils veulent voir ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et Dieu lui voit. Dieu lui voit le rejet de son peuple. Et alors qu'il s'apprête à le faire disparaître, Moïse intercède pour son peuple et il obtient la faveur de Dieu. L'alliance est renouvelée. À partir du chapitre 36 jusqu'au dernier chapitre, au chapitre 40, Moïse nous raconte la construction du tabernacle. Et nous trouvons quasiment mot pour mot le même contenu que dans la première section. Mais le refrain change. Le refrain qui est là maintenant, c'est « Ils firent, ils firent, ils firent, ils firent exactement comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Quelques mots concluent ce livre avec la nuée qui descend. Le peuple voit la présence de Dieu parmi eux. Une première grande section où Dieu détaille ce qu'il va falloir faire pour qu'il vienne. Le peuple pêche, Moïse intercède, Dieu reste auprès de son peuple, le tabernacle est construit et Dieu descend. Alors, nous allons aborder les trois chapitres qui nous parlent de la description du tabernacle, les chapitres 25, 26 et 27. Alors on va juste les survoler ce matin, sinon on est encore ensemble ce soir. J'ai passé une grande partie de la soirée d'hier soir à supprimer, 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 pour que ce que j'ai à vous dire ne tienne pas en une heure et demie, mais en peut-être 40 minutes. Je voudrais qu'on le fasse avec trois axes. Le premier, c'est avec humilité. Il faut considérer que ces chapitres ont été un défi constant pour l'Église avec de nombreuses interprétations. La deuxième chose, j'aimerais qu'on le fasse avec la vue du Nouveau Testament comme clé d'interprétation. Et la troisième, avec la volonté d'interpréter les détails en fonction de la grande image qui se dégage du texte. Ce que nous voyons premièrement, si vous regardez avec moi à partir du chapitre 25, c'est que c'est un tabernacle qui est fait de main d'homme. Ce que nous verrons ensuite, c'est que c'est un tabernacle qui cache Dieu. Ce que nous verrons encore, c'est que c'est un tabernacle qui appelle à un meilleur tabernacle, un tabernacle qui révèle Dieu. Regardez, le texte ne commence pas avec les instructions. En fait, il commence en parlant de l'offrande que Dieu demande à Moïse d'organiser pour collecter ce qui sera nécessaire finalement à la construction de ce tabernacle. Et je voudrais voir au travers de cette première section cinq choses que nous pouvons apprendre pour nous sur les offrandes. La première chose que nous apprenons, c'est que c'est un acte volontaire. Regardez avec moi. Exode 25, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » En fait, ce n'est pas tout le peuple qui est appelé à donner, c'est seulement ceux qui ont un cœur généreux. Et Paul ne dira pas différemment à l'église de Corinthe. Il leur dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qui est ce peuple qui va donner? C'est un peuple d'esclaves. Ils n'ont jamais rien fait de volontaire. Tout ce qu'ils ont fait dans leur vie était ordonné par quelqu'un d'autre. Ils étaient battus s'ils ne faisaient pas ce qu'on leur donnait à faire. Mais maintenant, Dieu dit que celui qui veut donner, donne. Qu'il le fasse librement. Ils n'avaient pas été faits pour être des esclaves de Pharaon, ils avaient été faits pour être des serviteurs libres du Dieu vivant. L'offrande est un acte d'adoration, un acte qui est motivé par la reconnaissance d'un Dieu qui a déjà délivré son peuple. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que c'est un acte qui coûte. Regardez, lisons à partir du verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, on n'est pas très sûr de la traduction, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, pour le parfum aux différents, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pesto et du pectoral. Waouh ! Et pour des esclaves, vous imaginez ce que ça représente ? Ils ont vécu dans la misère pendant 400 ans, et ce que Dieu leur demande, c'est ce qu'il y a de plus précieux au milieu d'eux. Des années plus tard, David est condamné par Dieu suite au dénombrement qu'il a demandé. Il reconnaît sa faute et Dieu lui dit qu'il veut un sacrifice. Alors il cherche un lieu pour y bâtir un autel et offrir ses sacrifices. Il va voir Ornan et lui dit « Mais je voudrais acheter ton champ ». Mais celui-ci lui refuse, il lui dit « Non, mais prends-le, il est à toi, je te le donne le champ ». Regardez la réponse de David. Le roi David dit à Ornan « Non, je l'achèterai contre sa pleine valeur en argent. Je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien en lui apportant ce qui t'appartient. » Et David donna à Ornan pour ce lieu de l'or pour un poids de 600 sicles, etc. « Je ne donnerai pas au Seigneur un holocauste qui ne me coûte rien, en lui apportant ce qui t'appartient. » L'homme naturel dit « Je n'offrirai pas à Dieu ce qui me coûte. » L'homme régénéré dit « Je n'offrirai pas à Dieu ce qui me coûte rien. » L'adoration et l'offrande à un coût. Troisième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que c'est Dieu qui pourvoit à ce coût. En fait, cela nous coûte. Mais finalement, Dieu avait déjà tout prévu. Et on peut remonter même jusqu'à 400 ans avant. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. » Un pays où ils n'auront rien, hein. Ce ne sera pas à eux. « On les réduira en esclavage, on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront avec de grandes richesses. » Ça faisait 400 ans que Dieu avait tout prévu. Réalisation de cela en Exode 12. Conformément aux indications de Moïse, le peuple va demander aux Égyptiens de leur donner des objets en or, en argent, des vêtements. Et nous lisons « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. Ils répondirent positivement à leur demande. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. » Nous ne devons pas confondre celui qui donne et le moyen par lequel il donne. Celui qui donne, ce n'est pas notre employeur, c'est Dieu. Notre employeur, c'est le moyen par lequel Dieu donne. Notre employeur, c'est le moyen par lequel Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous puissions le servir à notre tour. Quatrième chose, c'est utile, mais c'est utile parce que Dieu s'abaisse jusqu'à nous. Regardez au verset 8. Dieu dit à quoi vont servir ces offrandes finalement. Ils me feront un sanctuaire ou une habitation ou un tabernacle, et il explique ce que c'est au verset 9. C'est un lieu où il habitera au milieu d'eux. Waouh. Le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, le propriétaire de tout ce qu'il y a sur cette terre, se fait construire une tente. Il n'est pas en train de leur dire « faites-moi une cathédrale, un truc immense, un truc qui dépasse tout ». Non, je me contenterai d'une tente. Parce que Dieu s'abaisse à la hauteur de son peuple. Et ce contraste est mis en évidence par David. David dira « j'habite une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente ». Du reste, Salomon nous dira que de toute façon, rien n'est assez grand pour Dieu. Il va construire un temple magnifique et au moment de l'inaugurer, il dit « Mais quoi ? Et Dieu pourrait-il habiter sur cette terre ? Mais ni les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Cette maison que je t'ai construite le pourrait d'autant moins. » Mais Dieu demande une tente parce qu'il s'abaisse à la hauteur des hommes. Cinquième chose que je voudrais que nous voyons. L'utilisation des offrandes est faite selon ce que Dieu veut. En fait, la gestion de tout ce qui est récolté là est faite et confiée à Moïse. Mais pas pour que Moïse en fasse ce qu'il en veut, mais pour qu'il fasse ce que Dieu lui a montré sur la montagne. Moïse va passer 40 jours avec Dieu où il va lui expliquer comment chaque gramme d'or va être disposé, comment chaque tissu, comment chaque élément va ensuite être mis en place pour fabriquer ce sanctuaire. L'argent que nous récoltons lors de nos offrandes ne doit pas seulement être géré avec rigueur, mais aussi et surtout avec la vision de ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il accomplisse la mission que Dieu a donné à l'Église. Et nous ne sommes pas si loin de ce que Dieu demande à Moïse, permettre à nos contemporains de rencontrer Dieu. Nous avons effleuré le début de ce texte et nous sommes maintenant à l'arrivée où les matériaux sont réunis et nous allons construire ce tabernacle. Mais c'est un tabernacle qui finalement cache Dieu. Regardez avec moi, ça commence au verset 10. Il fera un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur. Tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins. Deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu les passeras dans les barres, dans les anneaux du coffre, sur les côtés du coffre, pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et elles n'en seront pas retirées. Est-ce que vous avez déjà fait une maison ? Mais il n'y a même pas besoin d'avoir fait une maison pour savoir ça. Vous avez déjà commencé par les meubles ? Maintenant, on est en train de construire. On a vu les fondations, on a vu les murs qui sont montés. Maintenant, il y a un toit, il y a quelques tuiles dessus. Peut-être qu'elles ne sont pas toutes encore. Mais les meubles, on n'y est pas. Là, la première chose que Dieu commande, c'est la fabrication d'un meuble. Et c'est la première idée que je voudrais que vous ayez dans la tête. Cette maison, elle est construite autour de quelque chose. La deuxième chose que je voudrais que vous voyez, c'est que si le coffre est en acacia, comme tous les autres meubles d'ailleurs, il est recouvert d'or. Il est recouvert d'or à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et puis il a quatre anneaux en or. Et à ces quatre anneaux sont fixées deux barres en acacia qui sont elles-mêmes recouvertes d'or. Le but était qu'on puisse le transporter sans jamais avoir à s'en approcher et risquer de le toucher. Et puis il est fermé par un couvercle, et ce couvercle a un nom bizarre, on y reviendra plus tard, l'expiatoire ou le propitiatoire selon vos traductions. Et puis dessus, il y a deux chérubins, et aussi sont entièrement réalisés en or. De l'or, de l'or, de l'or, partout de l'or. Dans ce coffre, Moïse devra y placer le témoignage que Dieu va lui donner. Et à ce moment-là, il s'agit des tables de la loi que lui-même a gravées. Cette section se conclut avec cette affirmation de Dieu. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu le mettras dans cette arche, le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Dieu dit, c'est là que je te rencontrerai. Et la question qui se pose, c'est, et où sommes-nous ? Nous sommes dans le lieu très saint. Mais celui-ci n'est pas décrit par la taille de ses murs, par sa forme, mais par le seul meuble qu'il occupe finalement. L'arche de l'Alliance, un coffre qui contient la loi, un coffre qui rappelle au peuple qu'ils sont des pécheurs, un coffre qui leur rappelle qu'ils n'ont pas accès à Dieu. Mais sur ce coffre, il y a un couvercle. Et sur ce couvercle, deux chérubins sont là. Et les chérubins étaient les anges qui se tenaient dans la présence de Dieu, les anges qui protégeaient Dieu de l'accès. L'accès à Dieu, en fait. On ne pouvait pas accéder à Dieu. C'est par exemple les anges que l'on va trouver dans Genèse 3. Lorsque l'homme et la femme sont chassés du jardin, deux chérubins protègent l'accès de l'endroit où Dieu se trouve. On reviendra sur ces éléments plus tard. Je continue la lecture. Et nous nous trouvons maintenant au verset 23. Regardez, ce coup-ci, nous sommes face à une table. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'un mètre. Sa largeur de 50 cm, sa hauteur de 75 cm, tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras 4 anneaux d'or pour la table et tu la mettras aux 4 coins et à 4 pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia, tu les couvriras d'or, elles serviront à porter la table. Mais cette fois-ci, il n'est pas dit qu'elles sont fixées. C'est à nouveau un meuble en acacia, il est à nouveau couvert d'or, il a à nouveau des anneaux, mais cette fois-ci les barres pouvaient être retirées. Bien que la table soit sainte, elle n'est pas aussi sainte que l'arche. D'ailleurs, nous ne sommes plus dans le lieu très saint, nous sommes dans le lieu saint. Cette table est décrite avec ses couverts, ses plats, ses coupes, ses gobelets, ses bols, mais l'accent n'est pas là. Il est tourné vers l'usage de la table. Et nous avons au verset 30, « Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. » Littéralement, ce sont les pains devant la face de Dieu. Ils sont également appelés les pains de la présence. Et puis Moïse nous parle d'un chandelier, une nouvelle pièce en or, sans doute moulée puis martelée, une pièce d'environ 25 kilos, en or pur. Sa forme évoquait un arbre avec ses fleurs et ses fruits. Le tabernacle était sombre, et la seule lumière venait de ce chandelier. Le texte conclut cette section au verset 40. Regarde, c'est tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et après avoir évoqué les meubles, il parle de la demeure. Au chapitre 27, il nous décrit la fabrication de la tente en elle-même. Avec ce même principe, des tissus précieux en premier, et plus on s'éloigne du lieu très saint, que ce soit pas au travers des différentes épaisseurs qui étaient ajoutées, moins le tissu est précieux. Au verset 1, nous lisons que nous avons des toiles de fin lin. Et au verset 7, elles sont recouvertes de toiles de peau de chèvre. Et ces toiles de peau de chèvre servaient à protéger de la dernière couche qui était de la peau de dauphin, ou ça pourrait être aussi du marsouin, du blaireau, on n'est pas très très sûr de la traduction. Quoi qu'il en soit, ce cuir avait pour fonction d'assurer l'étanchéité et la fraîcheur du sanctuaire. Et puis au verset 15, des planches qui servaient en fait de structure, de cadre, qui soutenaient les tentures. Et comme elles étaient à l'intérieur, eh bien elles étaient recouvertes d'or. Et ce qui est impressionnant, si vous lisez tranquillement le texte, c'est la ribambelle de détails que nous avons pour chaque teinture, pour chaque socle, pour chaque agrafe, pour chaque lacet qui servait à tenir le tout ensemble. Et Dieu rappelle encore une fois à Moïse, regardez au verset 30, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et puis il ajoute, « Tu feras encore deux voiles. » Le premier est au verset 31. Il est de couleur pourpre et violette avec des chérubins. Et puis il ajoute au verset 33, « Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table et le voile du chandelier en face d'elle, au côté sud du tabernacle. Tu mettras la table au côté nord. » Ainsi, ce premier voile devait séparer le lieu saint du lieu très saint. Il avait sur lui deux chérubins qui gardaient l'accès de ce lieu. Le deuxième voile nous est décrit au verset 36 et 37, et il fermait l'accès, lui, du lieu saint. Ça va ? Toujours avec moi ? C'est beaucoup de choses, hein ? Nous sortons de la tente, et nous nous trouvons maintenant devant son entrée, et cette fois, Dieu décrit à nouveau un meuble, un autel. Ce que nous remarquons, c'est que s'il est aussi fabriqué en acacia, comme les autres, cette fois, il est recouvert de bronze. Pourquoi ? Parce qu'il n'est même pas dans le lieu saint, en fait. Il est dans le parvis du tabernacle. De la même façon, les ustensiles que nous trouvons au verset 3 sont également en bronze, où les barres qui permettaient de le porter étaient également recouvertes de bronze. Plus d'or, mais du bronze. Nous nous éloignons peu à peu de la présence de Dieu. Et encore une fois, cette section se clôture avec cette affirmation, au verset 8. « On le fera tel qui t'a été montré dans la montagne. » Et puis il décrit une cour. Et je ne rentrerai pas dans les détails, je veux juste que vous voyez des murs, en fait. Des murs faits de tentures, des murs qui empêchaient de voir ce qui se passait. Tout était fermé autour du tabernacle. Souvenez-vous, où est Dieu ? Le but de l'Exode n'était pas seulement de délivrer Dieu, mais que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Alors maintenant, mettez-vous à la place d'un membre du peuple de Dieu. Et que voyez-vous de Dieu ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Assis par-dessus les rideaux, on pouvait voir la nuée qui descendait au-dessus du tabernacle. Autre chose, on pouvait entrer dans le parvis. Et là, on se trouvait face à l'autel. On entrait avec un animal et on ressortait seul, car l'animal avait été offert en sacrifice. Et ça disait quelque chose de très simple. Pendant des milliers d'années, ça a dit quelque chose de très simple. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans sacrifice. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans sacrifice. L'auteur de la lettre aux Hébreux le dit de manière très claire. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'accès à Dieu. Et puis il voyait autre chose. Il voyait des prêtres. Des prêtres qui, eux, pouvaient entrer dans le lieu saint et qui devaient, à chaque entrée ou sortie, apercevoir les lumières allumées. Ils devaient apercevoir la table sur laquelle les pains étaient toujours constamment exposés devant Dieu. Et ces pains avaient pour vocation à rappeler que c'est Dieu qui pourvoit, que Dieu est là et qu'il pourvoit aux besoins de son peuple. De la même façon que finalement Dieu avait tout prévu pour les matériaux nécessaires à la construction du tabernacle, Dieu allait aussi pourvoir à son peuple par sa présence au milieu d'eux. 12 pains pour 12 tribus, qui leur rappelaient que Dieu prenait soin de chacun d'entre eux. Le pain était aussi le symbole de la communion, le rappel de l'alliance, de ce repas que les anciens avaient mangé et bu en présence de Dieu. Maintenant, ce seraient les prêtres qui représentaient le peuple et qui, semaine après semaine, mangeraient ces pains. Ces pains nous rappellent à nous aussi aujourd'hui que Dieu sait ce dont nous avons besoin et qu'il pourvoit lui-même. Et ce dont nous avons le plus besoin, c'est de Dieu. Nous lisons dans Deutéronome 8:3, « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaisses pas, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un pain qui rassasie nos cœurs. Dieu ne veut pas juste combler nos besoins matériels, il veut aussi rassasier nos cœurs pour que nous soyons pleinement satisfaits en lui. » Le peuple de Dieu avait lui aussi besoin de Dieu. Mais vous savez quoi? Même les prêtres ne pouvaient pas aller plus loin. Même les prêtres étaient condamnés à rester dans ce lieu saint. Même les prêtres se trouvaient devant un voile, protégés par deux chérubins. Et on ne pouvait pas aller plus loin. Assis, une fois par an, une seule personne, le souverain sacrificateur. Mais même là, il devait se protéger avec la fumée pour ne pas voir Dieu. Mais quand il rentrait, waouh, tout était resplendissant d'or. Il était dans la présence de Dieu. Il découvrait l'arche avec le coffre contenant la loi, le couvercle appelé l'expiatoire ou le propitiatoire. En fait, c'est le même mot, mais qui est traduit de deux façons différentes. C'est deux accents différents d'une même chose. En fait, l'expiation, c'est l'action par laquelle Dieu, de manière juste, apaise sa propre colère contre le péché. Et comment il le fait? Il le fait en exigeant un paiement qui soit suffisant. En l'occurrence, du sang versé, celui d'un agneau parfait, innocent. La propitiation, c'est l'autre côté en fait. Ça nous concerne nous. Par la propitiation, nous sommes rétablis dans la présence de Dieu. Nous retrouvons sa faveur. Dieu nous redevient propice. Dieu se tenait là, au-dessus de l'arche. Il trônait entre les chérubins. La loi était sous ses pieds, écrite dans la pierre. Mais le peuple n'a jamais été capable de suivre cette loi, même pas de s'en approcher. Il n'a jamais respecté aucun des termes de l'Alliance. Alors entre la loi et Dieu, il y avait un couvercle, l'expiatoire. Ce couvercle était aspergé une fois par an de sang, le sang d'un sacrifice pour les péchés du peuple. C'était le jour du grand pardon. Ainsi, quand Dieu regardait à la loi, il voyait le sang. Une victime avait payé pour le peuple et sa colère était apaisée. Il redevenait favorable au peuple et il pouvait résider au milieu d'eux. Le tabernacle est un parcours qui commence par le sang sur l'autel du parvis et se termine par le sang sur l'expiatoire. Il nous montre que de la même façon que Dieu a sauvé son peuple par le sang d'un sacrifice, Dieu réside parmi son peuple par le sang d'un sacrifice. De la même façon que Dieu a sauvé son peuple par le sang d'un agneau, de la même façon, il réside parmi son peuple par le sang d'un sacrifice. Mais pour le moment, personne ne le voit. Personne ne le voit. Pas même le grand sacrificateur, parce que le lieu saint était sombre et parce qu'il devait faire brûler du parfum afin que la fumée cache Dieu. Le tabernacle nous rappelle qu'il est difficile, même pour un peuple racheté, de se tenir dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu saint. Le péché nous cache sa présence. En même temps, il nous rappelle que ce ne sont jamais les œuvres du peuple qui permettent de donner l'accès à Dieu, mais le sacrifice d'un innocent. Troisième chose, nous avons besoin d'un tabernacle meilleur, un tabernacle qui nous révèle Dieu. Si dans l'ancienne alliance, finalement, le tabernacle nous cache Dieu, nous avons besoin d'un meilleur tabernacle. Un tabernacle où l'on ne voit pas Dieu au-dessus d'une clôture. Un tabernacle où les lampes n'ont pas constamment besoin d'être allumées. Un tabernacle où le pain n'a pas constamment besoin d'être renouvelé. Nous avons aussi besoin d'un meilleur souverain sacrificateur, un qui puisse réellement s'approcher dans la présence de Dieu. Nous avons aussi besoin d'un meilleur sacrifice, un qui n'a pas besoin d'être constamment renouvelé, un sacrifice qui puisse réellement effacer nos péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Alors, des centaines d'années plus tard, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre. Jean nous dit qu'il a habité, mais il utilise le mot qu'il invente, tabernaclé, parmi les hommes. Ce Jésus dira, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Il dira encore, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Il sera le grand prêtre qui traversera une fois pour toutes le sanctuaire et offrira son propre sang sur une croix pour apaiser la colère de Dieu pour tout ce qui se confie en lui. Ce jour-là, Dieu déchire le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Et il nous dit que l'accès est ouvert à Dieu. Nous avons un plein accès à la présence de Dieu. Mais un jour, Dieu, Jésus viendra nous chercher. Il viendra pour nous conduire dans notre destination finale, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais là, il n'y aura pas de tabernacle. Nous lisons dans Apocalypse 21-22, « Je ne vis pas de sanctuaire, je ne vis pas de tabernacle ou de temple, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire ainsi que l'agneau. » Tout le chapitre 21 nous rappelle également qu'il n'y a plus de péché au ciel, il n'y a plus de pécheur au ciel, et donc il n'y a plus d'expiation nécessaire au ciel. Nous sommes définitivement, parfaitement dans la présence de Dieu. En fait, c'est notre espérance, c'est notre assurance. Un jour, nous serons là-haut. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Il y avait une autre question dans la boîte à questions. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu ? Est-ce que c'est biblique de dire le dimanche « Bienvenue dans la présence de Dieu » ou « Bienvenue dans le temple de Dieu » ? Je vais vous faire la même réponse que Matthieu. Oui et non. Les deux étant vrais. Non, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas dire cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu est omniprésent, en fait. Il est partout, en même temps. Je ne peux pas entrer dans la présence de quelqu'un qui est tout le temps avec moi, en fait. La deuxième chose, c'est que ici, ce n'est pas le temple de Dieu. C'est juste des briques, du ciment, des poutres, des chaises, enfin un bâtiment, quoi. Mais ce n'est pas le temple de Dieu. En fait, Jésus est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu quand nous recevons son esprit en nous. Alors non, nous ne pouvons pas dire bienvenue dans la présence de Dieu. Pourtant, si, nous pouvons le dire, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu était aussi omniprésent au temps de l'Exode et du tabernacle. Il était aussi partout sur cette terre. Et pourtant, il manifeste sa présence de manière particulière dans le tabernacle. Si Dieu est présent de partout, le dimanche matin, nous venons tous ensemble et nous recherchons particulièrement sa présence. Nous venons l'entourer, nous venons l'adorer, nous venons écouter sa voix, écouter ce qu'il a à nous dire au travers de sa parole. Il y a quelques fois, je suis à table avec les enfants, et puis tout d'un coup, j'entends « Papa !» Papa, ça fait 15 fois que je te pose la question et que tu ne me réponds pas. Ouais, bah parce que moi, je n'étais pas là. Enfin, j'étais là, hein, mais je n'étais pas là. J'étais ailleurs. Je ne sais pas où, mais j'étais ailleurs. Mais en fait, c'est un peu ça. Dans la semaine, Dieu est là. Hein. Lui, il est là. Mais c'est nous qui ne sommes pas là. Nous ne vivons pas vraiment la présence de Dieu en permanence. Nous oublions que Dieu est là. Mais le dimanche matin, nous venons tout spécialement pour l'entourer. Alors je dirais que oui, nous pouvons le dire. Et je dirais même que la Bible ne se prive pas de le faire. Ce que nous devons, c'est ne jamais suggérer que l'Église est la maison de Dieu, enfin le bâtiment est la maison de Dieu. Nous ne devons jamais suggérer qu'elle puisse être sacrée. Nous ne devons jamais suggérer qu'il puisse y avoir des moments où Dieu pourrait être absent de nos vies. Je voudrais conclure avec vous en priant. Notre Dieu, notre Père, ces textes que l'on a vraiment fait qu'effleurer, nous rappellent que ton but n'était pas que de nous sauver, mais de nous rencontrer. Ton but, c'est de vivre avec nous. Et dans la Nouvelle Alliance, ce but est d'autant plus grand. Tu veux vivre à l'intérieur de nous. Tu veux inonder nos cœurs, nos pensées de ce que tu es. Par ta parole, tu résides au milieu de ton peuple. Ce tabernacle nous rappelle aussi qu'un jour tu es venu. Tu as été le sacrificateur parfait, mais aussi le sacrifice parfait. Ce tabernacle nous rappelle qu'il n'y a plus de voile entre nous et Dieu et que nous sommes constamment dans ta présence même. Ce tabernacle nous rappelle qu'un jour il n'y aura plus de tabernacle parce qu'il n'y aura plus rien à expier, que tu seras là et que nous pourrons enfin te voir face à face. Ce que les anciens sur la montagne n'avaient pas pu voir parce qu'ils regardaient vers le bas prosternés devant toi. Ce que Moïse n'aura pas pu voir parce qu'il était caché dans un rocher et que Dieu ne s'est révélé que de dos. Ce que tu as révélé pleinement en Jésus-Christ sera de manière manifeste. Nous serons avec toi. Et Seigneur, donne-nous de vivre dans cette espérance, dans le désir de ce monde qui ne sera renouvelé, qui ne sera plus un monde déchu, mais qui sera un monde parfait, sans péché, sans mal, sans souffrance, mais surtout dans un monde où tu es là. Nous te prions que ces pensées puissent nous rassurer quand les jours sont difficiles, quand la souffrance est là, de nous dire que ce temps aura bientôt une fin, et que nous savons le meilleur est à venir, que un jour nous serons avec toi. Nous te remercions pour ton œuvre à la croix qui a permis cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.